Vous êtes sur RTL.
7h30, toute l'actualité de ce jeudi 14 octobre avec vous Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et un mois après la mise en place de l'obligation vaccinale pour les soignants, environ 15 000 personnels sont suspendus, dont un millier dans les EHPAD. Globalement, 91% des soignants ont désormais reçu au moins une dose. Sans vaccin, c'est généralement un test négatif qui tient lieu de passe sanitaire. Mais à partir de demain, les tests anti-Covid deviennent payants pour les non-vaccinés. 22 euros pour un antigénique, 44 pour un PCR. La santé et le pouvoir d'achat, ce sont les deux principales préoccupations des Français à 6 mois de l'élection présidentielle. C'est ce qui ressort de notre baromètre BVA pour Orange et RTL. Baromètre qui place toujours Emmanuel Macron en tête au premier tour, quel que soit le cas de figure. Marine Le Pen se qualifierait sans problème sans Éric Zemmour. Mais s'il se présente, c'est serré, 16 à 17% pour la candidate du RN, 13-14 pour le polémiste. Avec une marge d'erreur à 2,5 points, on peut dire qu'ils sont au coude à coude. Dans l'ombre de l'affaire Rémi Daraï, un autre gynécologue est poursuivi pour violence sexuelle. Le docteur Tran est mis en examen pour 75 viols et 14 agressions sexuelles sur des patientes. Il a exercé pendant plus de 20 ans à Daumont, dans le Val d'Oise. Pour cette enquête exceptionnelle, près de 7500 de ses patientes ont été contactées. 160 affirment avoir été victimes. Il nous accompagne depuis plus de 120 ans. Le ticket de métro sera bientôt un souvenir. À partir d'aujourd'hui, les carnets de 10 tickets ne sont plus en vente dans une centaine de stations. Ils auront totalement disparu d'ici le mois de mars. C'est le ticket dématérialisé qui prend le relais.
C'est une révolution. Hein.
Exactement. En Norvège, toujours aucune explication après l'attaque qui a fait 5 morts et 2 blessés hier soir. Attaque menée par un homme armé d'un arc et de flèches. Il a été interpellé. Selon certains médias, il s'agit d'un Norvégien converti à l'islam et ayant des antécédents médicaux. La piste terroriste n'est pas exclue. Et puis Mylène Farmer toujours au top. 340 000 billets ont déjà été vendus pour sa tournée des stades à l'été 2023, le Nevermore Tour. Ce sera le 8e show de sa carrière.
Impressionnant. Merci beaucoup Isabelle Choquet.
RTL. Le petit déjeuner de campagne.
La grande interview.
RTL, il est 7h35. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, donc, petit déjeuner de campagne, première édition, avec notre invitée Marine Le Pen qui inaugure cette première. Soyez la bienvenue, Marine Le Pen.
Merci beaucoup.
Je vous confie Alba Ventura et François Langlais.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Et nous allons, avec François Langlais, vous interroger évidemment sur le pouvoir d'achat, le nucléaire, la violence à l'école. Mais pour commencer, le gouvernement a mis sur la table hier la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le texte sera soumis à l'Assemblée la semaine prochaine. L'épidémie n'est pas tout à fait derrière nous. Est-ce que le gouvernement a raison de rester vigilant, Marine Le Pen ?
Enfin, l'épidémie n'est pas totalement derrière nous, mais enfin, on est à 50 cas pour 100 000 habitants quand même. Donc, l'épidémie est vraiment à un niveau qui est extrêmement bas. La question, c'est est-ce que les mesures telles que le pass sanitaire sont proportionnées à la situation sanitaire ? Je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont plus proportionnés. Donc il faut supprimer le pass sanitaire. On ne peut pas vivre, si vous voulez, dans un état de droit exceptionnel de manière permanente.
Voilà. C'est liberticide selon vous ?
Non mais, excusez-moi, mais je ne vais pas utiliser des grands mots, ça ne sert à rien. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'on décide de ça pour 6 mois. Ça inclut la campagne présidentielle, ça inclut les élections présidentielles, les élections législatives. Et encore une fois, je me pose la question de savoir si cette pression que le gouvernement veut absolument maintenir n'a pas pour vocation de faire passer le vote par procuration, contre lequel, évidemment, je m'élève fermement.
Comment ça, le vote par procuration ?
Oui, le vote par procuration. Ils avaient ça dans la tête. Ils l'ont exprimé, qu'ils souhaitaient le vote par Internet, le vote par procuration. Or, je pense que c'est un vote qui est dangereux parce que c'est un vote qui ne permet pas d'empêcher totalement les pressions, notamment les pressions, par exemple, intrafamiliales sur le vote.
Donc, oui, on part du pass sanitaire, on va jusqu'aux élections. Pour vous, tout serait mis dans le même texte.
Non, mais c'est pas moi qui... Excusez-moi. C'est pas moi qui pars du pass sanitaire pour aller jusqu'aux élections.
C'est vous qui nous en parlez.
Non, mais c'est le gouvernement, si vous voulez. Puisque,
pas dit encore.
Non, mais pardon. Si, c'est dit, ils veulent continuer à mettre en place le pass sanitaire pour les 6 prochains mois. Je suis désolé de vous rappeler.
Mais pas pour voter par procuration.
Pour les 6 prochains mois, il y a dedans des élections.
On passe au pouvoir d'achat.
Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Les prix de l'énergie montent, l'inflation progresse et les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs le deuxième thème de préoccupation des Français dans notre sondage BVA. Vous proposez d'augmenter les revenus de chaque ménage français de 200 euros par mois. Ça fait 2400 par an, bien sûr. Alors j'ai fait un petit calcul.
Non, mais faites pas le calcul, monsieur Langlais, parce que vous n'avez pas tous les éléments encore.
Je vous donne mon calcul quand même. 30 millions de ménages en France, ça fait quand même justement à 2400 euros par an, 72 milliards par an. C'est à peu près ce que rapporte l'impôt sur le revenu. C'est une fois et demie le budget de la défense. Où trouvez-vous cet argent ?
Eh bien, je vous l'expliquerai tout au long de la campagne. Mais d'ores et déjà, vous voyez, je vais, par exemple, permettre que le plein de 40 litres de gasoil baisse de 8 euros. Voilà. Et en passant la TVA de 20% à 5,5, non seulement sur l'essence d'ailleurs, mais également sur le gaz et l'électricité.
On n'est pas au compte que vous évoquez.
Ce qui va permettre... Non mais pardon.
Euros sur un plein, c'est pas 200 euros par mois.
Non mais, monsieur Langlais, ce qui va permettre de restituer... Excusez-moi, moi je parle du concret. Vous êtes un homme de courbe, certes, mais moi je parle du concret.
Non, c'est les
125
que vous avez
donné
vous-même.
125 euros d'économie annuelle pour une famille moyenne se chauffant en gaz. J'ai déjà... émis un certain nombre de mesures, M. Langlais. Vous entendez que 6 mois avant la fin de la présidentielle, je n'ai pas encore développé l'intégralité de mes mesures. Mais déjà, ces mesures-là, elles permettent de rendre 12 milliards d'euros aux Français avec une mesure sur la famille, à laquelle je tiens énormément, qui est la mesure de la part pleine pour le deuxième enfant.
Aujourd'hui, c'est une demi-part.
C'est une demi-part, vous le savez. Eh bien, on va passer à une part pleine. Alors, quand on dit ça, ça fait techno, mais la réalité, c'est que ça va rendre 560 euros par an à une famille moyenne, de classe moyenne de deux enfants.
J'en reviens, pardon, à ma question. Parce que vous dites, il faut rendre l'argent aux Français. C'est vraiment votre expression. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation de déficit déjà très profonde. Si vous faites des dépenses supplémentaires, le déficit s'accroît. Autrement dit, vous prenez de l'argent à l'État, mais qui est en réalité l'argent des Français déjà. C'est-à-dire que nous sommes comptables des dépenses
de
l'État.
C'est quand même incroyable ce que vous dites. C'est-à-dire que vous considérez que rendre l'argent aux Français, c'est faire des dépenses. Non, c'est pas pareil. Rendre l'argent aux Français, c'est pas faire des dépenses.
Ne pas financer des dépenses, c'est prélevé sur les Français
demain. Restituer, vous voyez, par exemple, en matière familiale, par la suppression du plafonnement des allocations familiales et la part fiscale dont je viens de vous parler, plus le prêt jeune que j'ai déjà évoqué, qui va permettre de faire un prêt à taux zéro aux jeunes couples et à transformer, à partir du troisième enfant, le capital restant dû en subvention.
Mais comment vous financez tout ça, Marine Le Pen ?
Ces mesures-là, c'est 6 milliards que l'on restitue aux familles.
D'où
on leur restitue.
D'où vient cet argent ? C'est encore de la dette et vous faites des tribunes
non,
pour dire
pas
qu'il
du
faut
tout.
La rembourser, la dette.
Non, mais Madame Alba Ventura, je ne vais pas dépenser un centime de plus. Vous entendez ce que je dis ? Je ne dépense pas un centime de plus. Je n'augmente pas les impôts et je ne fais pas plus de dette. En l'espèce, les mesures que je propose sur l'immigration... qui consiste à réserver, par exemple, les allocations familiales exclusivement aux Français et à soumettre toute une série de prestations de solidarité à un délai de carence de 5 ans d'équivalent temps plein pour les étrangers.
Vous savez que
du RSA.
C'est anticonstitutionnel.
On va en parler. Eh bien, ça fait 16 milliards d'euros d'économie.
On n'est pas à 72.
On va parler de la fraude. Parlons-en.
Moi,
j'ai pas envie de me battre. Je vais vous dire, j'ai pas envie de me battre sur les chiffres. Il y a un rapport sénatorial qui a été effectué qui parle de 15 à 45 milliards de pertes en raison de la fraude. Ah, on va prendre 15 milliards. Vous voyez, moi, je prends la fourchette basse. Comme ça, je ne vais pas me battre avec vous sur les chiffres parce que je pense que le fond est fondamental. Eh bien, là, vous avez déjà 31 milliards. Et il y a beaucoup d'autres sujets, monsieur Langlais. Par exemple, les subventions considérables que l'on accorde à l'énergie intermittente, éolien et photovoltaïque. Vous le savez, c'est entre 6 et 7 milliards d'euros par an.
C'est pas tout à fait inutile,
eh bien, moi,
hein.
Je supprime les subventions, ce qui va d'ailleurs permettre, au passage, monsieur Langlais, de restituer aux Français la moitié d'une taxe qu'ils payent sur leur facture d'électricité. Il faut qu'ils regardent en bas de leur facture, là. Il y a marqué CSPE, d'accord ? Ça représente 16% de leur facture. C'est considérable.
C'est 40%
eh ben, vous
des
voyez,
taxes. 40% de la facture.
On peut baisser de moitié, du coup, cette taxe. Voilà.
Donc ça veut dire que vous dites zéro renouvelable ?
Il y a toute une série, de choses sur lesquelles je vais intervenir pour, ici, là, partout, en réalité, faire baisser la pression qui pèse sur les Français de leurs dépenses contraintes.
Ça, c'est très louable.
Et
hein.
je vais y le arriver, problème, monsieur Langlais.
C'est de trouver l'argent dans une situation de déficit
voyez, regardez,
déjà très détériorée.
Oui, regardez,
on s'accordera là-dessus.
Voyez, par exemple, là, 3 milliards et demi de la taxe sur les services publics de l'électricité, la TSPE. Ces 3 milliards et demi, ils sortent pas du budget, puisque je supprime les subventions. Vous voyez ? Donc, en réalité, ça ne coûtera rien. Et je rends de l'argent aux Français parce que je pense que les Français n'y arrivent plus.
Marine Le Pen, voilà. Soyez claire, si vous supprimez les subventions sur l'éolien,
oui, complètement.
Donc, terminez les énergies renouvelables.
Non, mais ce n'est pas renouvelable, Madame Ventura. C'est intermittent. C'est pas, je sais qu'on a vendu ça en parlant de renouvelable. Ce n'est pas
mais
renouvelable,
donc,
c'est
y
intermittent.
Il n'y a plus de parc éolien construit, c'est ça ?
Ah non ! J'arrête toute nouvelle construction de parcs éoliens et je lance un grand chantier pour les démonter même, vous voyez ? Voilà. Donc au moins c'est clair, vous voyez ?
Démonter tous les mâts.
Vous voyez ? Moi je ne suis pas Emmanuel Macron. Moi j'ai des positions claires, j'ai des convictions. Je n'en change pas. Je dis à l'avance ce que je ferai parce que j'y crois.
Si vous voulez, et vous construisez des centrales nucléaires ? Des
oui,
EPR,
oui,
combien ?
Oui, bah, les 6 qui sont prévus, en l'occurrence. Et puis mettre en œuvre le grand carénage. Et pourquoi pas ces petits modules dont a parlé Emmanuel Macron en les présentant comme une nouveauté, alors qu'en réalité, ils étaient déjà d'ailleurs dans le plan développé il y a quelques années. Mais excusez-moi, permettez-moi de revenir à la philosophie qui est la mienne. Les Français, aujourd'hui, n'arrivent plus à vivre avec le budget qui est le leur. Pourquoi ? Parce que tout a augmenté dans des proportions qui sont spectaculaires. C'est l'essence qui a augmenté et les taxes. C'est le gaz qui a augmenté. C'est l'électricité qui a augmenté. Vous comprenez ? Et toutes ces augmentations mises bout à bout, eh bien, en réalité, les étouffent et leur empêchent de terminer correctement leur fin de mois.
Une question sur le Royaume-Uni. Le gouvernement, là-bas, a voulu fermer les frontières aux travailleurs étrangers, comme vous envisagez de le faire si vous arrivez au pouvoir. Résultat, pénurie d'essence à cause du manque de chauffeurs, pénurie de bouchers qui pourraient compromettre leur repas de fête de Noël, pénurie de produits alimentaires qui touche un Britannique sur 6, pénurie de personnel de santé. Le Noël de Boris Johnson, comme celui que vous nous préparez, c'est pas d'essence, pas de dinde, pas de cadeaux, pas de service d'urgence. On a envie de vous dire non merci.
Vous n'avez pas le sentiment d'être un tout petit peu caricatural ?
Non. Bon, je m'inspire de l'actualité.
Non, mais je pense que vous êtes un
exactement.
Peu caricatural. Alors, d'abord, il y a eu une conséquence à l'arrêt de l'immigration, notamment clandestine en Grande-Bretagne. C'est une augmentation de 8,8% des salaires. Attends. C'est dommage que vous n'en parliez pas parce que.
Concomitance n'est pas
dire...
conséquence.
Non, mais ce que je veux vous dire, si.
Les salaires augmentent aussi au Royaume-Uni, ils augmentent en Allemagne.
Non, monsieur Langlais, mais non.
Et au Royaume-Uni, vous avez une inflation qui est beaucoup
plus forte.
Mais
monsieur Langlais, vous êtes un économiste. Enfin non, vous n'êtes pas économiste, mais vous aimez l'économie.
Oui.
Bon,
vous savez donc bien,
vous savez donc bien que l'immigration, en réalité, sert à peser à la baisse sur les salaires. Et en supprimant, si vous voulez, la part...
Elle sert aussi à faire fonctionner un pays.
Non, elle sert d'abord un pays qui a 6,5 millions de chômeurs.
Écoutez,
en France, on a 6 millions.
Vous supprimeriez les travailleurs étrangers en France, probablement dans les mêmes difficultés que le Royaume-Uni.
Excusez-moi, mon sujet n'est pas là. D'abord, je vais supprimer le travail clandestin. Ça vous pose un problème ? Eh bien, devenez député et votez une loi pour autoriser le travail clandestin, car c'est interdit en France aujourd'hui.
Je parle évidemment du travail
légal. Le travail clandestin, c'est un dumping sur les salaires qui s'effectue au quotidien sur les Français.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point.
Quand vous avez des gens qui acceptent de travailler au noir et que vous avez des employeurs qui se servent de cette main-d'œuvre, eh bien, l'intégralité de l'échelle des salaires des Français, évidemment, est pressurée à la baisse. Cette situation n'est pas admissible, d'accord ? Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, mon sujet n'est pas, encore une fois, d'aller chercher des travailleurs en situation légale là où ils sont pour aller les expulser de France. Mon sujet, c'est de dire vous travaillez en France, vous y avez été autorisé. Avec moi, les critères seront plus difficiles, seront plus exigeants. Mais si, par exemple, vous restez au chômage au bout d'un an, il faudra que vous repartiez chez vous. Car si vous êtes au chômage au bout d'un an, c'est qu'il n'y a pas de travail pour vous. Est-ce que tout ça résout le problème de la formation, monsieur Langlais ? Non, il faut agir évidemment sur la formation. Il faut faire en sorte qu'on arrive à résoudre cette incroyable incapacité qu'a la France à mettre face à face les offres d'emploi et les demandes d'emploi. Mais je vous signale, monsieur Langlais, pour terminer notre conversation, il manque aussi 40 000 chauffeurs en France. Pourquoi ? Quelle est votre explication ? Alors donnez-moi donc...
Non, il en manque dans toute l'Europe. Hein.
Non, mais pourquoi il manque 40 000 chauffeurs en France ?
Toute l'Europe souffre de pénurie de chauffeurs.
Mais pourquoi ?
Et plus encore le Royaume-Uni.
Mais je vais vous dire pourquoi, en réalité. Parce qu'on est confronté au travail détaché et à la concurrence étrangère, mais bien sûr que oui, de chauffeurs qui ne travaillent pas, qui ne sont pas soumis aux mêmes normes, qui ne sont pas soumis aux mêmes charges,
Marine
qui ne sont
Pen.
Pas soumis au même salaire. Donc,
vous plaît.
Commençons par faire respecter, si vous voulez, dans notre pays, ce qui relève aussi de la protection des travailleurs et du paiement correct de leur travail. Et croyez-moi, on aura probablement une attractivité supérieure du métier de chauffeur en France demain.
Marine Le Pen, dans notre sondage BVA pour Orange et RTL, Emmanuel Macron est toujours en tête, quel que soit le cas de figure. Vous avez une deuxième position plus fragile si Éric Zemmour se porte candidat. J'ai une question d'abord directe, est-ce que vous irez jusqu'au bout ?
Bien sûr.
Même si Éric Zemmour passe devant vous dans les sondages.
Non mais, Madame Ventura, moi, j'ai dit il y a 4 ans, écoutez, si quelqu'un veut se présenter, veut faire acte de candidature, il n'y a pas de problème et on verra bien qui sera le mieux placé. C'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans.
C'était en mai 2018, laissez-moi vous entendre pour les auditeurs ce que vous disiez.
Je suis là et je me bats parce qu'aujourd'hui, je suis la mieux placée pour le faire. Si demain, quelqu'un est mieux placé que moi, aucune difficulté. Je n'ai pas d'ambition personnelle. Je vous le dis très clairement. Et peut-être un jour, d'ailleurs, vous serez amené à vous rendre compte que ce que je vous ai dit n'est que le reflet de mes convictions.
Ça, c'était en mai 2018 sur Paris Première dans l'émission Zemmour et Nolo.
Voilà.
Mais Marine Le Pen, votre nièce, Marion Maréchal, a dit, là, il y a 2 jours, ce qui est sûr, c'est que peut-être faudra-t-il se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux placé.
Je suis convaincue que je serai la mieux placée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Rassemblement National a décidé de me confier le soin d'être la candidate. Et personne n'a souhaité, en l'occurrence, être présenté sa candidature à ce moment-là. La campagne, maintenant, a démarré. Je suis convaincue d'être la mieux placée et permettez-moi de vous dire que la valse des sondages et, encore une fois, la course des petits chevaux qui amuse énormément les journalistes aujourd'hui à 6 mois de la présidentielle ne veut pas dire grand-chose. Ce que je vois, moi, c'est que dans l'ensemble des études d'opinion depuis 4 ans et demi, pas depuis 4 semaines, depuis 4 ans et demi, je suis donné au second tour face à Emmanuel Macron entre 45 et 47%, c'est-à-dire dans la marge d'erreur. Ça veut dire que je peux et je vais gagner cette élection présidentielle.
Merci Marine Le Pen. Vous restez avec nous.
RTL Petit Déjeuner de campagne se poursuit dans un instant avec Philippe Carrivière et son regard sur l'actualité. A tout de suite. Et Marine Le Pen, bien entendu, vous dialoguerez tout à l'heure avec les auditeurs d'RTL. Et entre-temps, nous aurons pris, vous et moi, un café Calvi, si vous le voulez bien.
RTL Présidentiel. Le Petit Déjeuner de campagne de Marine Le Pen.
Taxé.
RTL. L'œil de Philippe Carrivière.
Quelle merveille. Pardonnez-moi, je ne m'adresse pas à vous.
Je
veux bien le faire, mais bonjour Philippe Cavrivière. Marine Le Pen reste pour votre chronique. Qu'est-ce que vous faites en studio avec ce chat?
Justement, Yves, comme Marine Le Pen aime les chats, on n'a pas 10 000 points communs avec Marine non plus. Je me suis dit, elle aime les chats, t'aimes les chats. Brise la glace avec un chat. Voilà. Il s'appelle Snatch, c'est un Maine Coon, c'est un mâle. Et je vous jure que c'est vrai, juste derrière, on a rendez-vous chez le véto pour la castration. De lui, hein, pas moi. Louis Bonin me regarde inquiet. Ça va lui faire une grosse journée, Pépère, hein, quand même, parce qu'il rencontre Marine Le Pen et derrière, pof, ablation des ralouettes. Mais il va s'en rappeler du 14 octobre. Alors j'hésite encore, je vous avoue, parce que je trouve ça cruel de les castrer. Parce que lui, c'est vrai qu'il n'a jamais tripoté un enfant à l'église, donc il ne mérite pas. Il n'est pas dans les 300 000 cas. Cela dit, ça tombe bien, cette castration, parce que tel maître, tel chat. Et moi, je n'ai jamais eu beaucoup de couilles. Très souvent, en face de l'invité, je le trouve très sympa. Ça s'appelle de la lâcheté, tout à fait.
Oui,
et il est mignon, Snatch. Alors, je me demande, vous voyez, Marine, je me demande s'il n'est pas RN. Parce qu'il n'aime pas trop les étrangers, il en a peur. Et quand il y a un étranger qui arrive à la maison, il feule.
Hein ? Alors, c'est vrai que les chats, vous connaissez, ça vit chez vous, oui. Ça fout rien, ça bouffe gratos, ça déchire les rideaux, ça abîme les canapes, ça chie partout. C'est un peu à l'image de certains, c'est l'image de qu'ont vos électeurs des immigrés, un petit peu. Ils ont cette image-là, un petit peu.
Philippe, vous venez de Fréjus dans le Var, oui. La ville de David Rachtin, et c'est la ville qui a accueilli l'université d'été du Rassemblement national.
C'est fou, Marine. Vous aimez les chats comme moi. vous allez souvent à Fréjus comme moi. Oui. Je sais où vous êtes. Vous allez au resto Le Casar chez Jean-Louis et Karine. C'est mes amis comme moi. On a des points communs. On a des amis communs, mais qu'est-ce qui nous arrive? Toutes ces affinités, c'est... Et puis, c'est pas fini, Marine. Moi, je bosse pas mes chroniques. Vous bossez pas toujours vos débats. Alors, on est pareil, finalement. Alors, petit souci, vous êtes célibataire. Moi, pas tout à fait. Mais ça peut s'arranger. Je peux faire un petit remplacement, comme on dit. Surtout si vous êtes élu au mois de mai. Parce que loger à l'Élysée pour 5 ans, moi, ça m'arrange. Ça vous plaît. Parce que, comme c'est pas loin d'RTL, je crois que c'est le coup de bus, c'est la ligne 95, c'est direct, ça peut m'arranger.
Bon, Philippe, désolé de briser vos rêves de déménagement, mais les sondages sont pas toujours très favorables à Marine Le Pen en ce moment.
Oh, vous nous emmerdez avec la course des petits chevaux, là, les sondages, hein, les journaleux. Les sondages, c'est des chiffres. Et les chiffres, c'est un rame, monsieur Galvi. Voilà, t'es obligé de le faire venir un petit peu. 93 ans, il n'a toujours pas coupé le cordon. Alors, vous allez encore... vous n'avez pas parlé aujourd'hui du plafond de verre à Marine Le Pen, c'est bien ? C'est pour
pas
une
encore.
Fois qu'on vous a
oui,
pas
c'est...
parlé. Marine est toujours en dessous, sauf que maintenant, il y a Éric Zemmour qui est au-dessus et qui fait des claquettes sur le plafond de verre. Alors, moi, je trouve que la vie n'est pas juste avec vous, Marine, en ce moment. Vous avez mis 10 ans pour dédiaboliser. Et là, juste Zemmour déboule, il rediabolise en 2 minutes 30. Et c'est ce que les gens veulent, apparemment. D'ailleurs, vous pourrez me dédicacer son livre, parce que le salopard, c'est vos idées à l'intérieur. Voilà. En plus, c'est pas le seul à piquer vos idées. Il y a Eric Ciotti, le Jiminy Cricket de Nice. Il y a Ducon-Ognon, il vous pique vos idées aussi. Il y a une semaine, Emmanuel Macron posait dans un refuge avec des chats. Donc tout le monde vous dépouille vos thèmes de campagne. Vous êtes un peu comme la marchande de fruits et légumes qui était la seule du village, qui cartonnait. Et d'un coup, il y en a trois qui ouvrent juste à côté. Laissez la vente ses salades tranquilles, elle était là en premier, Marine.
Vous parliez de dédiabolisation, Philippe.
Tout à fait.
Vous avez regardé notamment l'émission avec Karine Le Marchand consacrée à Marine Le Pen.
Elle était très bien, cette émission, elle était parfaite. Voilà, un dialogue ouvert et tout. D'ailleurs, l'émission était super. Moi, j'adore Karine Le Marchand, elle nous écoute souvent. Peut-être que, comme vous êtes célibataire, elle peut faire quelque chose pour vous, Karine.
C'est pas une maladie, hein.
Ce soir, nous sommes avec Marine. Marine est une jeune trentenaire de 53 ans. Marine aime les chats. Marine n'est pas très famille et ça tombe bien car sa famille n'est pas très Marine en ce moment. Marine est actuellement en recherche d'emploi et postule pour un CDD de 5 ans dans l'administration en région parisienne. Bonne chance à vous, Marine. Alors, oui, Marine, on pense sûrement très différemment, mais c'est ça qui est intéressant, c'est le dialogue. Moi, j'ai travaillé au Club Med, 30 nationalités, 5, 6, 7 religions dans le même village, et le racisme comme faute grave. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait un propos raciste, c'était le licenciement express, et ça marchait très bien, et j'ai adoré, c'est mon ADN. Alors, ça fait de moi un philosophe en pareo, un éternel optimiste. Allez, Snatch, dans un moment, tu vas être comme moi après cette chronique, tu vas te sentir plus léger.
Bon, vous me le prêterez, votre chat.
Bah oui, il est magnifique.
Il est trop beau. L'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin, 7h55 en direct, et quand vous le voulez, sur le site RTL.fr. RTL, il est 8h.
C'est vrai qu'il faut jouer.
Vous souhaitez remplacer votre chaudière par un équipement économe ? Choisissez une pompe à chaleur Aquarea T-Cap de Panasonic. Panasonic, solution de chauffage et de refroidissement. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et à 8h, le journal de Dominique Tenza, quand il aura récupéré son casque, sur le chat de Monsieur Cavry.
RTL présidentielle, avec Yves Calvi, le petit déjeuner de campagne.
Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et avant de développer les principaux titres, cette petite révolution dans le monde des fromages à pâte molle.
Eh oui, pour la première fois en France, le volume des ventes de camembert, fromage emblématique de notre patrimoine culinaire, vient d'être détrôné par celui des ventes de mozzarella. Information révélée ce matin par le Figaro. En fait, les courbes se sont croisées, un peu comme en politique, puisque c'est le thème de cette matinale spéciale. La courbe du camembert a fini par être rattrapée et dépassée le mois dernier par celle de la mozza. Alors on pourrait en sourire, mais les Normands, eux, sont assez qui est Frédéric Veil?
Eh bien, c'est surtout le syndicat normand des fabricants de camembert qui est inquiet, puisque dans les années 80, on produisait 180 000 tonnes de camembert, dont une partie était exportée. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui, et ça ne risque pas de s'arranger, puisqu'avec l'interdiction de toute référence à la Normandie pour les camemberts pasteurisés, les prévisions ne sont pas bonnes, comme ces chiffres qui viennent de tomber. Depuis le début de l'année, il s'est vendu plus de 33 000 tonnes de mozzarella contre un peu plus de 29 000 tonnes de camembert. Alors oui, qu'elle soit en salade avec des tomates, sur des pizzas ou des lasagnes, qu'elle soit consommée crue ou cuite, ou qu'elle soit au lait de bufflonne ou au lait de vache, la mozzarella ne cesse d'émoustiller les papilles des Français, et ce, au détriment du sacro-saint camembert qui semble être de moins en moins tendance au pays du fromage.
Frédéric Veil en Normandie, décidément, pour RTL.
La mozzarella à la place. Bon.
La fin des tests Covid.
Oui, remboursé par la Sécu, à partir de demain, il vous faudra payer de votre poche.
25 euros le test antigénique, 44 euros environ le PCR. Pour les personnes qui refusent toujours de se faire vacciner, ce sera le seul moyen d'aller au restaurant, au cinéma. Alors certains ont décidé jusqu'au bout de profiter de la gratuité. Une centaine de créneaux réservés chez ce pharmacien de Thionville en Moselle d'ici ce soir.
Aujourd'hui, notre carnet de rendez-vous est blindé. C'est des gens qui refusent la vaccination et qui donc, jusqu'au dernier moment, essayent d'avoir le pass sanitaire gratuit pour aller au resto. On va avoir beaucoup de questions demain au comptoir pour nos patients qui veulent faire les tests Covid. Et on a mis une petite affichette pour les cas où il reste gratuit, les mineurs et ceux qui ont une prescription médicale ou une contre-indication à la vaccination. Mais c'est un cas extrêmement rare.
Propos recueillis par Dimitri Ramelot. 5 mois de prison avec sursis pour le jeune lycéen qui avait violemment bousculé son enseignante à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne la semaine dernière. Une peine assortie notamment de 140 heures de travaux d'intérêt général.
8h03, cette enquête RTL à présent sur un phénomène qui touche Paris, sans doute plus que n'importe quelle autre ville en France, l'exode urbain.
Et nous en parlions avec François Langlais ici même hier matin. Les chiffres sont là et ils sont impressionnants. En cette rentrée scolaire, la capitale compte 6000 élèves de moins en primaire et autant de familles, souvent issues de la classe moyenne, qui préfère l'exil aux conditions de vie d'une capitale dans laquelle tout est devenu trop cher, trop petit, bref, trop compliqué. Vous l'avez constaté, Alexandre de Saint-Aignan, en interrogeant des Parisiens qui se demandent s'ils vont le rester très longtemps.
Oui, d'abord devant cette école élémentaire du 9e arrondissement de Paris, Émilie vient chercher son petit garçon scolarisé en CP.
Il y a 5 ans, ils étaient 30. Là, aujourd'hui, ils sont 18 dans sa classe, donc nous, ça nous va bien.
Sauf que...
Et il va y avoir forcément des fermetures, ça c'est inévitable.
Dans cette école, il y a visiblement eu un avant et un après pandémie.
Les parents d'élèves, il y en a eu beaucoup qui ont déménagé en province.
La province, un nouvel Eldorado pour les Parisiens. Mathias est justement en train de vendre son appartement dans le nord de la capitale. Lui, sa femme et son petit garçon partent s'installer à Nantes dans une grande maison.
Ou quand notre fils pourra courir, il pourra courir dans le jardin. Donc ça, c'est chouette.
Beaucoup de ses amis ont d'ailleurs déjà quitté le quartier.
On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers, je pense.
Grégoire Narcisse de l'agence immobilière Stéphane Plaza dans le 19e arrondissement.
Énormément de Parisiens aujourd'hui ont pour projet de quitter Paris. Si c'est pas maintenant, c'est à court terme, à moyen terme.
Parmi les clients de cette agence en 2021, 1 sur 3 a vendu son appartement pour quitter Paris. C'est 3 fois plus qu'avant la crise.
Enquête RTL signée Alexandre de Saint-Aignan. À l'étranger, cette attaque hier soir en Norvège, à Kongsberg, dans le sud-est du pays. Le bilan est lourd, 5 morts, 2 blessés. Le mode opératoire, lui, est quasiment inédit. Le tueur était armé d'un arc et de flèches. La police n'exclut pas un acte terroriste.
8h05, le parcours du Tour de France 2022 sera donc dévoilé intégralement en fin de matinée au Palais des Congrès à Paris.
La 109e édition s'élancera de Copenhague le 1er juillet prochain pour s'achever 3 semaines plus tard avec la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Ce Tour de France débute donc par une curiosité, ce départ du Danemark.
Oui, départ le plus septentrional de l'histoire de la Grande Boucle, à 1300 km de Paris, dans la ville qui se veut la plus cycliste et cyclable du monde. Il y aura un transfert le 4e jour. Le peloton arrivera dans le nord de la France, à Lille. Et la suite de cette Grande Boucle va s'écrire dans une partie du pays concentrée à l'est d'une diagonale, allant des Hauts-de-France aux Hautes-Pyrénées. 4 pays visités, Danemark, France, avec également décroché par la Belgique à Binche et par la Suisse. Passage à Lausanne et Aigle, où se trouve le siège de l'Union Cycliste Internationale.
Nicolas, quels seront les temps forts? Dites-nous-en un peu plus.
Alors le premier sera la succession des secteurs pavés dès la 5e étape entre Lille et Arambert. Un peu moins de 20 km de pavés au total. Le fil conducteur de cette édition 2022, ce sont les pourcentages très relevés, très ardus. La super planche des Belles-Filles dans les Vosges, une pente à 25%. Les Alpes, une arrivée au sommet du col du Granon à plus de 2400 mètres et avec un enchaînement le lendemain mythique comme en 1986 avec le final à l'Alpe d'Huez. Ce sera le 14 juillet. Dans les Pyrénées, une arrivée à l'Altiport de Peyragudes, là où Bardet s'est imposé en 2017. Enfin, un contre-la-montre individuel autour de Rocamadour dans le Lot et programmé la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées.
Merci Nicolas Georgerot. On va terminer ce journal avec ce qui sera sans doute l'une des images de cette journée. Le président en short et en maillot, crampons au pied sur un terrain de foot. Tout ça pour la bonne cause, au profit de la Fondation des Hôpitaux de Paris. Emmanuel Macron viendra renforcer l'équipe du Variété Club qui réunit les anciennes gloires du ballon rond, opposée à une équipe de soignants dont fait partie Sylvain, infirmier en pédiatrie. C'est lui qui sera chargé de marquer le président à la culotte.
Je pense pas que je vais le tacler, non. Je pense que je vais y aller, je vais marcher sur des œufs. Après, s'il faut que je lui prenne le ballon, je lui prendrai. Mais en aucun cas, je suis là pour tacler qui que ce soit ou pour faire mal. Pour moi, là, c'est hors politique. C'est vraiment prendre du plaisir. Les amoureux du foot se retrouvent et ils agissent tous ensemble pour une bonne cause.
S'il y a un ballon à disputer épaule contre épaule, vous êtes prêt ?
Ah oui, bien sûr. On a quand même une âme de compétiteur, en tout bien, tout honneur et avec le respect mutuel.
J'espère bien. Le tacle avec tact, voilà. Évidemment. Propos recueillis par Jean-Michel Rascol, le match a lieu à 17h15 à Poissy, dans les Yvelines.
Merci Dominique Tenza. Ben justement, faisons un point sur notre météo. Oui. Dans les Yvelines, ça se passe comment ?
Ça sera sous le soleil, mais ça sera soleil pour tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, les quelques brouillards matinaux vont vite disparaître. Et avec ce soleil, on aura un grand écart de température entre ce matin où les gelées sont fréquentes, là, autour de Guéret, Luxeuil, à Saint-Étienne, à Colmar, par exemple, à Nevers ou encore à Vichy. Donc des températures basses. Et cet après-midi, ou sous le soleil, on atteindra 14 à 16 degrés entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes, 17 à 18 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 18 à 21 degrés dans le sud, où en prime, on n'aura plus de Mistral et de Tramontane.
Bah c'est formidable. Vous savez quoi ? Dans un instant, le Café Calvi avec Marine Le Pen. Bah voilà, pour revenir sur des zones de sa vie ou de ses curiosités qui nous intéressent.
Misons-la.
Et à 8h, le journal de Dominique Tenza quand il aura récupéré son casque sur le chat de Monsieur Cavry.
RTL présidentielle avec Yves Calvi, le petit déjeuner de campagne.
Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et avant de développer les principaux titres, cette petite révolution dans le monde des fromages à pâte molle.
Eh oui, pour la première fois en France, le volume des ventes de camembert, fromage emblématique de notre patrimoine culinaire, vient d'être détrôné par celui des ventes de mozzarella. Information révélée ce matin par le Figaro. En fait, les courbes se sont croisées, un peu comme en politique, puisque c'est le thème de cette matinale spéciale. La courbe du camembert a fini par être rattrapée et dépassée le mois dernier par celle de la mozza. Alors on pourrait en sourire, mais les Normands, eux, sont assez inquiet, Frédéric Veil.
Eh bien, c'est surtout le syndicat normand des fabricants de camembert qui est inquiet, puisque dans les années 80, on produisait 180 000 tonnes de camembert, dont une partie était exportée. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui, et ça ne risque pas de s'arranger, puisqu'avec l'interdiction de toute référence à la Normandie pour les camemberts pasteurisés, les prévisions ne sont pas bonnes, comme ces chiffres qui viennent de tomber. Depuis le début de l'année, il s'est vendu plus de 33 000 tonnes de mozzarella contre un peu plus de 29 000 tonnes de camembert. Camembert. Alors oui, qu'elle soit en salade avec des tomates, sur des pizzas ou des lasagnes, qu'elle soit consommée crue ou cuite, ou qu'elle soit au lait de buffon ou au lait de vache, la mozzarella ne cesse d'émoustiller les papilles des Français, et ce, au détriment du sacro-saint camembert qui semble être de moins en moins tendance au pays du fromage.
Frédéric Veil en Normandie, décidément, pour RTL.
La mozzarella à la place. Bon.
La fin des tests Covid.
Ah oui, remboursé par la Sécu, à partir de demain, il vous faudra payer de votre poche.
25 euros le test antigénique, 44 euros environ le PCR. Pour les personnes qui refusent toujours de se faire vacciner, ce sera le seul moyen d'aller au restaurant, au cinéma. Alors certains ont décidé jusqu'au bout de profiter de la gratuité. Une centaine de créneaux réservés chez ce pharmacien de Thionville en Moselle d'ici ce soir.
Aujourd'hui, notre carnet de rendez-vous est blindé. C'est des gens qui refusent la vaccination et qui donc, jusqu'au dernier moment, essayent d'avoir le pass sanitaire gratuit pour aller au resto. On va avoir beaucoup de questions demain au comptoir pour nos patients qui veulent faire les tests Covid. Et on a mis une petite affichette pour les cas où il reste gratuit, les mineurs et ceux qui ont une prescription médicale ou une contre-indication à la vaccination. Mais c'est un cas extrêmement rare.
Propos recueillis par Dimitri Ramelot. 5 mois de prison avec sursis pour le jeune lycéen qui avait violemment bousculé son enseignante à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne la semaine dernière. Une peine assortie notamment de 140 heures de travaux d'intérêt général.
8h03, cette enquête RTL à présent sur un phénomène qui touche Paris, sans doute plus que n'importe quelle autre ville en France, l'exode urbain.
Et nous en parlions avec François Langlais ici même hier matin. Les chiffres sont là et ils sont impressionnants. En cette rentrée scolaire, la capitale compte 6000 élèves de moins en primaire et autant de familles, souvent issues de la classe moyenne, qui préfère l'exil aux conditions de vie d'une capitale dans laquelle tout est devenu trop cher, trop petit, bref, trop compliqué. Vous l'avez constaté, Alexandre de Saint-Aignan, en interrogeant des Parisiens qui se demandent s'ils vont le rester très longtemps.
Oui, d'abord devant cette école élémentaire du 9e arrondissement de Paris, Émilie vient chercher son petit garçon scolarisé en CP.
Il y a 5 ans, ils étaient 30. Là, aujourd'hui, ils sont 18 dans sa classe, donc nous, ça nous va bien.
Sauf que...
Et il va y avoir forcément des fermetures, ça, c'est inévitable.
Dans cette école, il y a visiblement eu un avant et un après pandémie.
Les parents d'élèves, il y a eu beaucoup qui ont déménagé... En province.
La province, un nouvel Eldorado pour les Parisiens. Mathias est justement en train de vendre son appartement dans le nord de la capitale. Lui, sa femme et son petit garçon partent s'installer à Nantes dans une grande maison.
Ou quand notre fils pourra courir, bah, il pourra courir dans le jardin. Donc ça, c'est chouette.
Beaucoup de ses amis ont d'ailleurs déjà quitté le quartier.
On n'est pas les premiers, on sera pas les derniers, je pense.
Grégoire Narcisse de l'agence immobilière Stéphane Plaza dans le 19e arrondissement.
Énormément de Parisiens aujourd'hui ont pour projet de quitter Paris. Si c'est pas maintenant, c'est à court terme, à moyen terme.
Parmi les clients de cette agence, en 2021, 1 sur 3 a vendu son appartement pour quitter Paris. C'est 3 fois plus qu'avant la crise.
Enquête RTL signée Alexandre de Saint-Aignan. À l'étranger, cette attaque hier soir en Norvège, à Kongsberg, dans le sud-est du pays. Le bilan est lourd, 5 morts, 2 blessés. Le mode opératoire, lui, est quasiment inédit. Le tueur était armé d'un arc et de flèches. La police n'exclut pas un acte terroriste.
8h05, le parcours du Tour de France 2022 sera donc dévoilé intégralement en fin de matinée au Palais des Congrès à Paris.
La 109e édition s'élancera de Copenhague le 1er juillet prochain pour s'achever 3 semaines plus tard avec la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées. Bonjour Nicolas Georgeron.
Bonjour.
Ce Tour de France débute donc par une curiosité, ce départ du Danemark.
Oui, départ le plus septentrional de l'histoire de la Grande Boucle, à 1300 km de Paris, dans la ville qui se veut la plus cycliste et cyclable du monde. Il y aura un transfert le 4e jour. Le peloton arrivera dans le nord de la France, à Lille. Et la suite de cette grande boucle va s'écrire dans une partie du pays concentrée à l'est d'une diagonale, allant des Hauts-de-France aux Hautes-Pyrénées. 4 pays visités, Danemark, France, avec également décroché par la Belgique à Binche et par la Suisse. Passage à Lausanne et Aigle, où se trouve le siège de l'Union cycliste internationale.
Nicolas, quels seront les temps forts? Dites-nous-en un peu plus.
Alors le premier sera la succession des secteurs pavés dès la 5e étape entre Lille et Arambert. Un peu moins de 20 km de pavés au total. Le fil conducteur de cette édition 2022, ce sont les pourcentages très relevés, très ardus. La super planche des Belles Filles dans les Vosges, une pente à 25%. Les Alpes, une arrivée au sommet du col du Granon à plus de 2400 mètres. Et avec un enchaînement le lendemain mythique comme en 1986 avec le final à l'Alpe d'Huez. Ce sera le 14 juillet. Dans les Pyrénées, une arrivée à l'Altiport de Peyragudes, là où Bardet s'est imposé en 2017. Enfin, un contre-la-montre individuel autour de Rocamadour dans le Lot est programmé la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées.
Merci Nicolas Georgerot. On va terminer ce journal avec ce qui sera sans doute l'une des images de cette journée. Le président en short et en maillot, crampons au pied sur un terrain de foot. Tout ça pour la bonne cause, au profit de la Fondation des Hôpitaux de Paris. Emmanuel Macron viendra renforcer l'équipe du Variété Club qui réunit les anciennes gloires du ballon rond, opposée à une équipe de soignants dont fait partie Sylvain, infirmier en pédiatrie. C'est lui qui sera chargé de marquer le président à la culotte.
Je pense pas que je vais le tacler, non. Je pense que je vais y aller, je vais marcher sur des œufs. Après, s'il faut que je lui prenne le ballon, je lui prendrai. Mais en aucun cas, je suis là pour tacler qui que ce soit ou pour faire mal. Pour moi, là, c'est hors politique. C'est vraiment prendre du plaisir. Les amoureux du foot se retrouvent et ils agissent tous ensemble pour une bonne cause.
S'il y a un ballon à disputer épaule contre épaule, vous êtes prêt?
Ah oui, bien sûr. On a quand même une âme de compétiteur, en tout bien, tout honneur et avec le respect mutuel.
J'espère bien.
Le tacle avec tact, voilà. Évidemment. Propos recueillis par Jean-Michel Rascol, le match a lieu à 17h15 à Poissy, dans les Yvelines.
Merci Dominique Tenza. Ben justement, faisons un point sur notre météo. Oui. Dans les Yvelines, ça se passe comment?
Ça sera sous le soleil, mais ça sera soleil pour tout le monde d'ailleurs aujourd'hui. Les quelques brouillards matinaux vont vite disparaître. Et avec ce soleil, on aura un grand écart de température entre ce matin où les gelées sont fréquentes, là autour de Guéret, Luxeuil, à Saint-Etienne, à Colmar, par exemple, à Nevers ou encore à Vichy. Donc des températures basse et cet après-midi ou sous le soleil, on atteindra 14 à 16 degrés entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes, 17 à 18 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 18 à 21 degrés dans le sud où en prime, on n'aura plus de Mistral et de Tramontane.
Bah c'est formidable, vous savez quoi ? Dans un instant, le Café Calvi avec Marine Le Pen. Bah voilà, pour revenir sur des zones de sa vie ou de ses curiosités qui nous intéressent.
RTL présidentielle, le petit déjeuner de campagne.
Ça y est, votre opticien.
RTL présidentielle,
petit déjeuner de campagne, le Café Calvi.
Et c'est donc le Café Calvi de Marine Le Pen. Commençons par mes curiosités, si vous le voulez bien, Marine Le Pen. La tradition veut que le président de la République entre à l'Élysée avec un chien, le plus souvent un labrador. On a commencé à aborder la question tout à l'heure avec Philippe Cavrivière, mais si vous êtes élu, est-ce que vous entrez à l'Élysée avec vos chats ? Ma question est au premier degré.
Oui. J'entrerai avec mes 6 chats, ce qui correspondra en poids, en fait, à un labrador à peu près.
Très bien. Vous me confirmez que vous avez bien passé un diplôme d'éleveuse de chats ?
Oui, je suis éleveuse de chats. Je suis étonnée d'ailleurs de voir que parfois, ça suscite chez les journalistes un petit peu d'ironie ou du mépris. Parce que je sais que François Bayrou est éleveur de chevaux et que personne ne trouve ça méprisable. Donc oui, j'élève des chats et j'ai passé un examen pour le faire le mieux possible.
Mais c'est une possible reconversion ou c'est une simple curiosité ? Enfin,
non, c'est pas une curiosité, c'est une passion. C'est une passion. On a le droit d'avoir des passions,
mais
vous savez.
Mais bien sûr. Bon. Les électeurs du parti animaliste apprécieront ?
Oui, je ne sais pas, mais enfin, même sans être éleveur de chats, on peut avoir énormément d'amour pour les animaux et vouloir lutter pour qu'ils soient le mieux traités possible et que ceux qui les maltraitent soient sévèrement sanctionnés de ce fait.
Je suis en train de tourner autour de l'idée, si vous subissez un nouvel échec au second tour de l'élection présidentielle, je dis bien si vous subissez un nouvel échec au second tour de l'élection présidentielle, pour savoir si vous préparez une reconversion ou ce que vous ferez de votre vie.
Non, mais encore une fois, on peut faire de la politique et avoir un métier.
Ce n'est pas ma question.
Une passion dont on fait son métier.
Ce n'est pas ma question.
J'ai du mal. Je sais que c'est l'idée qui a traîné, que sous prétexte que j'avais passé un examen, j'étais en train de préparer ma reconversion.
Oui.
Donc non, pas du tout. Je ne prépare pas ma reconversion. J'aurai toujours mes chats quand je serai présidente de la République. Et si jamais je ne suis pas élue, je continuerai à faire de la politique et j'aurai toujours mes chats. Oui, donc,
la réponse est claire. Alors, je vous parlais reconversion, mais ça mène une autre question. Qu'est-ce qu'on sait faire d'autre dans la famille Le Pen que de la politique?
Moi, j'ai été avocat, hein, je vous rappelle quand même, pendant un certain nombre d'années. Je suis d'ailleurs aujourd'hui en capacité de me réinscrire au barreau si je le souhaitais. Donc, on sait faire ça.
Vous avez pratiqué votre métier?
Oui, bien sûr. Je l'ai pratiqué durant un certain nombre d'années. J'ai eu mon propre cabinet, d'ailleurs.
Donc, c'est un métier que vous pourriez reprendre, sérieusement.
Bien sûr, je pourrais reprendre. Dès demain, je pourrais me réinscrire au barreau de Paris. J'ai même encore ma robe, vous voyez.
Si ce n'est que vous venez de nous dire que vous avez l'intention de continuer, quoi qu'il arrive. Marine Le Pen, j'ai été surpris par une de vos remarques spontanées, il y a une semaine, lors d'un déplacement en région, à une dégustation de fromage. Sur un ton badin, on vous a entendu réagir, je cite de mémoire. Hein. Vous pouvez m'en donner un qui sent fort, je suis célibataire. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes élue présidente de la République, il n'y aura pas de Monsieur Le Pen à l'Élysée ? Comme il y eut un monsieur Merkel, par exemple, à la chancellerie.
Non, mais c'est pas une maladie d'être célibataire. Vous savez, encore une fois, on a l'impression, on dit « Ah, la pauvre », mais non, enfin, on peut très bien vivre en étant célibataire, très heureuse, très épanouie, et mieux vaut être seule que mal accompagnée, vous voyez.
Bon, ça vous convient, cette situation, en ce moment ?
Oui, ça me convient, oui. Je suis épanouie.
Je suis clairement en train de vous interroger sur votre vie privée.
C'est ça.
Celle de vos concurrents font la une de la presse, donc vous ne comptez pas vous afficher. Ce serait quasiment...
Non, je ne me suis jamais affichée, vous le savez bien. Je n'ai jamais montré mes enfants. Beaucoup m'y poussaient.
Oui.
J'ai toujours considéré que c'était la ligne rouge. Moi, je suis une mère lyonne. C'est-à-dire que je protège mes enfants de toute forme de publicité parce que je veux qu'ils puissent vivre la vie qu'ils ont choisi de vivre et pas la vie que certains souhaiteraient leur imposer au motif des engagements politiques de leur mère.
Donc vous ne sacrifierez pas aux pages de Paris Match et ce genre de choses ?
Non, je n'ai jamais sacrifié. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les pressions ont été extrêmement fortes.
De qui ? Et pourquoi ?
Des journaux en question. Mais je ne sais pas, parce qu'il semblerait que ce soit un passage obligé. Mais moi, je me sens obligée par rien en matière de vie privée. Je considère que ça doit rester, encore une fois, un espace intime. Et la vie des enfants, ça n'est pas la mienne, c'est la leur. Je veux dire, c'est aussi une forme de respect à leur égard.
J'ai une dernière question que je trouve peut-être plus personnelle, d'une certaine façon plus intime. Alors, il y a une mauvaise rumeur qui laisse entendre que vous lisez peu et que vous passez votre temps à regarder des séries qui auraient même formé votre vie vision du monde. Oublions cela.
Oui, s'il vous plaît, merci.
Voilà. Quel est le dernier livre que vous ayez lu, Marine Le Pen ?
Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Rachel Kahn, Racé, que j'ai énormément apprécié.
Pourquoi ?
Parce qu'elle a une écriture élégante, parce qu'elle elle veut réparer, elle n'est pas dans l'acrimonie, elle n'est pas dans la brutalité, parce qu'elle a une manière intelligente d'expliquer en quoi le racialisme est en fait une impasse nocive. Voilà, c'est une, j'ai beaucoup apprécié, je la connaissais peu, pour être honnête, et j'ai beaucoup apprécié son livre.
Notre petit déjeuner de campagne se poursuit tout de suite avec Cyprien Signé, son surf de l'info. Marine Le Pen, vous restez avec nous.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signé.
Et donc je surfe avec Marine Le Pen.
Ben allez-y, oui, s'il vous plaît.
Car Marine Le Pen, c'est assez rare pour être souligné, vous incarnez une forme de constance sémantique en politique. Exemple, quand une situation vous inquiète ou vous déplaît, bah vous ne faites pas dans la dentelle.
Nous venons de vivre 4 ans de chaos. Si Emmanuel Macron était amené à effectuer un deuxième mandat, le chaos serait absolument général.
Le chaos direct, et ça marche avec tout. Hein. Il y a 10 ans, l'avenir de l'euro...
L'euro va s'effondrer. Et parce qu'on n'aura pas préparé la sortie de l'euro, ça va être le chaos. Le chaos économique et social.
Et puis alors, il y a 13 ans, évidemment, la situation du monde était comment ?
Eh bien moi, j'aimerais que l'on croie le Front National quand il prévoit les difficultés de ce monde. Et compte tenu du chaos qui est en train de toucher le monde...
Eh oui, c'était déjà le chaos. Dites donc, vous n'auriez pas un petit côté... Mais oui, un petit côté Mylène Farmer, en fait. Et ça marche vraiment à tous les coups. Hein. Le pacte de Marrakech.
Ce texte annonce un grand chaos.
Et le Brexit ?
Ça s'appelle la stratégie du chaos.
Pareil. Bon, c'est bon, la musique, c'est bon. Et puis, alors, votre autre dada sémantique, c'est celui-là.
Je demande la démission de Gérard Collomb.
Allez, oui, la démission, vous aimez ça. Et pas qu'avec les ministres de l'Intérieur. Hein.
Manuel Valls doit maintenant écouter le message des urnes et avoir la décence de remettre sa démission au président de la République.
Allez, le Premier ministre aussi. Et puis, alors, pendant qu'on y est, hein, pourquoi s'arrêter là ?
Et le premier qui devrait démissionner, c'est évidemment le président de la République.
Voilà, bon, de toute façon, tout le monde finit par y passer.
Monsieur Ferrand devrait en tirer lui-même les conséquences.
Mais c'est-à-dire, précisément,
poser sa démission. Un ministre au bilan aussi épouvantable que Bernard Cazeneuve aurait démissionné. Commençons par démissionner, monsieur Mitterrand.
Ouais, d'ailleurs, apparemment, chez vous, la demande de démission... C'est quand même une histoire de famille.
Marine Le Pen doit démissionner de son poste de président ?
À mon avis, oui. Elle doit. La pudeur veut qu'on se retire.
Comme quoi, hein, les démissions, on a beau les réclamer, c'est pas toujours suivi des faits, en fait. Hein.
Le chaos et la démission, vous avez envie
de
réaction ?
Oui, mais c'est vrai. Non, mais comment c'est assez facile de faire ce genre d'exercice quand vous avez quelqu'un qui est dans la vie politique depuis 20 ans, si vous voulez. Mais maintenant, vous avez raison, je parlerai plus de chaos, je parlerai de grand désordre. Puisqu'il faut maintenant mettre tout grand avant quelque chose.
Ça marche mieux. Les auditeurs électeurs posent leurs questions à Marine Le Pen dans un instant sur RTL. Continuez à nous appeler au 3210 par téléphone ou en envoyant votre question par SMS. Avec le code matin au 64 900, tout de suite. Rendez-vous dans un instant avec Marine Le Pen.
RTL présidentielle.
Le petit déjeuner de campagne de Marine Le Pen.
La Monnaie de Paris vous présente sa nouvelle série de pièces de 10 euros argent, Harry Potter. Collectionnez les 9 nouvelles pièces inspirées des 4 derniers films Harry Potter. Une édition limitée et millésimée 2021, fabriquée en France par les artisans de la Monnaie de Paris. À offrir ou à s'offrir dès maintenant, disponible dans votre bureau de poste et sur monnaie-de-paris.fr.
Noix concassée cherche yaourt au lait de brebis pour lui donner une pointe de croquant.
Justement chez Grand Frais, jusqu'au 19 octobre, le yaourt au lait de brebis myrtille ou marron est à seulement 99 centimes.
Le meilleur marché, c'est Grand Frais.
Pour 225 grammes, soit 7,92 euros le kilo, fabriqué dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pour votre santé, bougez plus.
Non, c'est pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. On est vite accro. Moi, par exemple, ça fait une semaine que tout le monde me croit en vacances alors que je suis dans ma IC4. J'ai pas bougé du parking.
Carole, on te voit.
Nouvelle IC4 électrique est à partir de 299 euros par mois. Portes ouvertes ce week-end.
Citroën. LLD 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 8 500 euros, ramené à 0 euros, bonus écologique et prime à la conversion déduit, offre à particulier jusqu'au 31 octobre, sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, dites un prix.
Un prix Lidl ?
Ah, vous donnez votre mangue au chat, c'est ça ?
Ma langue au chat.
Ah oui, mais ici chez Lidl, c'est la mangue, le fruit patron. En ce moment, ils font la mangue à 99 centimes. Vous n'auriez jamais deviné, hein ?
99 centimes la mangue ? Bah, un prix pareil, je l'avais sur le bout de la langue.
Oui, c'est cela, oui.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie U, variété Austin, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Une banque qui appartient à ses clients, ça change quoi pour une association?
Ça, on aimerait bien savoir.
Eh bien justement, l'idée c'est de faire gagner du temps à ceux qui en donnent. Avec notre assurance dédiée, en cas d'absence d'une personne clé, on verse une indemnisation à votre association pour lui permettre de continuer son activité. C'est ça être une banque mutualiste.
Bah maintenant, on sait.
Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Le Crédit Mutuel Banque Opérative appartient à ses 8,1 millions de clients sociétaires. Infos et conditions en caisse de Crédit Mutuel proposant ce service et sur créditmutuel.fr.
Contrat souscrit auprès d'ACM IRDSA, régi par le Code des assurances.
Galerie Lafayette.
Coucou chérie. Bon, je n'ai pas oublié le déjeuner chez tes parents, mais figure-toi qu'en ce moment, c'est le retour des 3J aux Galeries Lafayette. Moins 30% et plus sur une sélection d'articles jusqu'au 1er novembre seulement. Oh, ça serait tellement dommage de manquer ça.
Voir modalités en magasin et sur galerielafayette.com. Galerie Lafayette, le grand magasin de tous.
Quand je suis au travail, je passe mon temps à faire attention à mes clients. Leurs besoins, leurs envies, bref, je suis aux petits soins. Mais qui est là quand moi j'en ai besoin ?
Engie est là pour vous, professionnels, quand vous avez besoin d'aide pour votre consommation d'énergie. Bénéficiez de moins 25% pendant un an sur le prix du kilowattheure d'électricité, garanti sans hausse sur 3 ans. Professionnels, changez pour Engie au 3454. Service et appel gratuit. Offre active air électricité 3 ans réservée aux professionnels, voire conditions sur pro.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
C'est le bon moment de changer de mutuelle. Quand l'heure de la retraite sonne.
Merci à tous d'être venus.
Quand tout n'est plus très clair.
Pardon, j'ai pas bien entendu.
Ou se complique vraiment.
Ouh là, il va falloir plâtrer.
Avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale, faites équipe avec une mutuelle de proximité qui vous aide à prendre soin de vous avec des formules personnalisées, souples et bien pensées.
Pour adhérer, rendez-vous en agence ou sur viasanté.fr. En ce moment, un mois offert sur votre garantie santé. Voir conditions en agence.
Pour ma santé, c'est Via Santé.
Vous avez remarqué ? Plus on a le choix de fruits et légumes, plus on a envie de se faire plaisir. Eh bien, le jeudi 14 octobre, pendant le jeudi plus dans vos magasins U, vous allez être servi. Vous bénéficiez de 30% en Eurocarte U sur tout le rayon fruits et légumes. Et oui, 30% de remise en Eurocarte U sur tous les fruits et légumes. Ça, ça sent bon les petits plats.
U. Commerçant autrement.
Offre réservée aux clients carte U hors promotion en cours, voire conditions et liste des magasins participants sur magasinu.com.
RTL
président sur magasinu.com.
RTL présidentiel. Le petit déjeuner de campagne
avec les auditeurs électeurs.
Il est 8h24, poursuite de ce premier petit déjeuner de campagne sur RTL. Avec vous Marine Le Pen, merci d'être restée pour dialoguer avec les auditeurs. Et le premier qui va vous interroger, alors il nous appelle au 3210 pour dialoguer directement avec vous, ou leur question au 64-900 code matin, je le rappelle. Mais Marcelin, lui, qui est médecin généraliste en Vendée, vous interroge directement. Bonjour Marcelin, Marine Le Pen vous écoute.
Oui, bonjour. Voilà, j'avais une question pour Anne Le Pen. Bonjour Anne Le Pen. Bonjour. Je voulais savoir, avec l'arrivée de M. Zemmour dans la campagne, je voulais savoir un petit peu quelle était un petit peu votre stratégie envisagée, à savoir, envisagez-vous une alliance avec M. Zemmour et puis, serait-il un bon Premier ministre ?
Alors, bon, je connais Éric, hein, et je pense que, encore une fois, pour une partie qui est une partie importante, qui est l'immigration et l'insécurité, nous faisons le même constat. Donc, nous serons amenés, à un moment donné ou à un autre, à faire le rassemblement. Parce que quand on aime la France, on se doit d'agir et d'œuvrer pour le rassemblement. Moi, je ne souhaite pas que la candidature d'Éric soit uniquement une division, en réalité, de notre capacité à gagner cette élection présidentielle. Un bon Premier ministre, mais je pense qu'il n'a pas du tout envie d'être Premier ministre. Je ne vous le cache pas. Peut-être ça suscitera une question, d'ailleurs, de la part des journalistes, mais je ne crois pas du tout qu'il souhaite être Premier ministre.
Vous êtes en contact avec lui ?
Bon, je le connais, je l'ai vu.
Non, parce que vous êtes suivi, enfin voilà.
Non,
vous
mais avez... je l'ai vu, j'ai eu un entretien avec lui il y a quelques mois, que j'ai retrouvé d'ailleurs en intégralité dans son livre, que je trouve un peu cavalier, je ne vous le cache pas. Mais je crois que pour l'instant, il n'est peut-être pas en capacité d'entendre ce que j'ai à lui dire, mais on va attendre un peu, c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un de patient, moi.
Comment vous vivez cette concurrence de fait ?
Bon, je la vis comme une concurrence. Quand on fait de la politique, on sait qu'on ne concourt pas tout seul. Hein. Donc, on a toujours eu des concurrents, d'ailleurs, en réalité, dans notre camp national. Ça a été Maigret, ça a été De Villiers deux fois, c'est régulièrement Nicolas Dupont-Aignan. Donc,
mais pas à ce niveau,
peut-être. Donc, c'est une... Oui, enfin, permettez-moi encore une fois de rester prudente sur les niveaux à 6 mois des élections. Non, ce que je trouve un peu regrettable, je vous le dis très franchement, c'est que ça fait 40 ans qu'on se bat pour créer chez les Français une unanimité sur le sujet de l'immigration. On était très seuls, honnêtement, il y a quelques décennies.
Oui.
Et maintenant, je pense que les Français, unanimement, prennent conscience, je crois qu'ils sont 85%, qu'il y a trop d'immigration dérégulée, trop d'anarchie dans ce domaine, etc. Et je regrette que, alors que nous avons réussi à créer cette unanimité, ils recréent en quelque sorte, au sein de cette unanimité, un peu des divisions qui me paraissent pour le coup inutiles et donc nocives.
Alors, aux questions que vous posez, Marcelin, en fait, vous avez répondu clairement. Êtes-vous en contact avec lui ? Oui, nous dites-vous. Une alliance est-elle possible ?
Non, la dernière fois, mais ça peut l'être. Enfin, il n'y a pas de difficulté. Non,
vous aviez annoncé que vous deviez avoir que vous souhaitiez préparer un déjeuner, en tout cas.
Oui, on avait été invités à dîner par Robert Ménard à Béziers, oui. Tous les deux, mais il n'a pas souhaité.
D'accord. Une alliance est-elle possible ? Vous nous avez répondu, elle est naturelle, et il vous semble évident qu'il n'a pas envie d'être votre Premier ministre. Les choses sont claires. Mathieu nous appelle de Nantes. Bonjour Mathieu, Marine Le Pen vous écoute. Alors, est-ce que Mathieu... Excusez-moi, on a eu un petit moment de blanc. Cher Mathieu, vous pouvez maintenant poser votre question à Marine Le Pen.
Oui, bonjour. Ils ont l'air proches d'Éric Zemmour. Quelles sont les relations avec votre père et votre nièce ?
Des relations familiales. Mais c'est pas parce que nous avons des relations familiales que nous n'avons pas des divergences politiques. Je pense que nous sommes chacun une individualité politique avec ses convictions. Nous ne sommes pas une secte et nous mettons de côté, si vous voulez, la famille par rapport à nos propres convictions politiques dont je vous ai dit qu'elles pouvaient être divergentes. Parfois nous sommes d'accord, parfois nous sommes en désaccord, mais nous restons une famille française comme il y en a des millions d'autres, avec beaucoup d'amour, avec parfois des tensions, des oppositions. On n'est pas très différents, vous savez, de tous les Français, hein, somme toute.
Mais on est dans une crise de famille, là, d'une certaine façon ? Ou dans une crise idéologique autour de ce que c'est aujourd'hui de représenter...
Non, je ne crois pas, mais les divergences politiques avec mon père, chacun les connaît. Si vous voulez, j'ai tout fait pour sortir ma famille politique un peu de la marginalité, des solutions brutales, des propos blessants, etc. Mon père était en désaccord avec cette conviction.
Oui.
Je l'ai portée. Pas toujours de manière facile, contrairement à ce qu'on dit. J'ai été élue à la tête de mon mouvement plusieurs fois de suite. Et donc, je n'abandonnerai pas cet axe qui m'apparaît être l'axe gagnant. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a que comme cela, en rassemblant, en n'étant pas inutilement brutal, que l'on peut gagner au second tour. Car je rappelle que l'objectif, c'est d'être le président de tous les Français. De tous les Français, pas être seulement le président de son propre camp ou de ceux qu'on considère dignes d'être défendus, de tous les Français. Moi, c'est ce que je souhaite faire, je souhaite être la présidente de tous les Français. Et pour ça, je dis, après 5 ans de fracturation du pays par Emmanuel Macron, ne créons pas de fractures supplémentaires. Le peuple français ne peut pas le supporter.
En l'occurrence, Mathieu, vous interrogez sur les fractures idéologiques, en tout cas politiques, et donc affectives au sein de votre famille. Je remarque en tout cas que... vous ne souhaitez pas rentrer caractère affectif, tout simplement.
Mais c'est-à-dire que
moi, je serais à votre place, je serais blessé, pour dire les choses simplement.
Je pense que le cercle familial fait partie de l'intimité de la vie privée, et on n'en a pas déjà beaucoup, nous autres politiques, de la vie privée.
Oui.
Donc, je vous le dis, je considère qu'il y a des lignes rouges, et que tout cela fait partie de l'intimité de la vie privée. Laissez-moi ça, s'il vous plaît.
Mais bien entendu, si ce n'est que vous faites tous les trois de la politique.
Oui.
Alain va vous interroger maintenant. Je remercie Mathieu qui nous appelait de Nantes. Lui nous appelle d'Auxerre. Bonjour Alain, nous vous écoutons.
Bonjour Madame Le Pen, bonjour Monsieur Calvi.
Bonjour.
Madame Le Pen, pouvez-vous nous dire quelle serait votre première mesure emblématique dès votre arrivée si vous étiez éventuellement élu à la tête du pays.
La première mesure emblématique, c'est le référendum sur l'immigration. Ça fait 40 ans que les Français n'ont pas été interrogés sur ce sujet qui est un sujet essentiel, parce qu'en réalité, il touche à tous les aspects de notre vie en société. La politique des quartiers, la politique carcérale, l'espace public, l'éducation, les finances. Et donc, je pense que les Français doivent s'exprimer. Et moi, je leur suggère, je vais leur soumettre plutôt un projet de loi qui vise à arrêter les pompes aspirantes, à expulser les indésirables, c'est-à-dire les clandestins, les délinquants, et à rendre les Français maîtres chez eux par l'intermédiaire de la priorité nationale et de la primauté de la Constitution française sur les textes européens.
Ça prendrait quelle forme, Marine Le Pen ?
Un projet de loi, il est rédigé, tout le monde peut y accéder. Vous savez, moi, je ne suis pas comme Emmanuel Macron, je ne veux pas faire tourner les Français comme des toupies, par conséquent, je ne change pas d'avis, donc il est déjà rédigé, il est à la disposition des Français, ils peuvent le lire, ils peuvent s'en emparer, s'en saisir. Évidemment, il y aura un débat, puisqu'il y aura un référendum, et ce débat est utile, et ainsi, chacun votera en conscience de l'importance de ce sujet pour l'avenir de la France.
Priorité nationale, est-ce que vous ne risquez pas d'être retoqué par le Conseil constitutionnel, puisque ce serait jugé discriminant, la priorité nationale?
Je change la Constitution.
Ah, vous
C'est-à-dire
la Constitution.
Que j'intègre D'accord. dans la Constitution, il y a toute une partie de ce référendum qui est une révision constitutionnelle. Et donc l'objectif, c'est justement d'intégrer la possibilité de la priorité nationale dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'a à aucun moment dans notre État de droit la possibilité de juger de l'intérieur du texte d'un référendum.
Donc texte de loi et référendum auprès des Français.
Oui, c'est en fait... Non mais c'est en fait le projet de loi qui est soumis à référendum. Un petit peu comme pour la Constitution européenne. C'est l'ensemble du texte de la Constitution européenne qui a été soumis aux Français et rejeté par les Français, même si on leur a fait rentrer par la petite porte quelques mois plus tard.
Merci Alain de nous avoir appelés. Nous allons maintenant donner la parole à Gaëlle qui vous appelle du département du Val-d'Oise. Bonjour Gaëlle, nous vous écoutons.
Bonjour à tous. Bonjour Madame Le Pen. On a tous vu cette vidéo très choquante de la professeure qui a été violentée.
Oui.
Avez-vous des pistes pour gérer ces enfants violents ? Avez-vous des solutions ?
C'est-à-dire que je pense très objectivement qu'on a un système pénal à l'égard des mineurs qui est un système qui en réalité suscite le sentiment d'impunité de leur part. Et l'éducation nationale a souvent mis la poussière sous le tapis, c'est-à-dire que face à des professeurs qui étaient malmenés, maltraités, et bien souvent leur hiérarchie ne les a pas soutenus. On l'a vu d'ailleurs avec Samuel Paty, hein, qui a beaucoup souffert de ce que sa hiérarchie ne l'avait pas soutenu. Donc je pense qu'il faut rétablir un soutien de la hiérarchie aux professeurs. Il faut que la justice prenne extrêmement au sérieux ces faits qui sont des faits très graves parce qu'ils bouleversent, encore une fois, ce qui est la sérénité d'un lieu qui est essentiel, qui est l'école. Et je pense qu'il faut pouvoir exclure ces élèves de l'école. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a une philosophie depuis des années consistant à dire il ne faut jamais exclure un élève quoi qu'il fasse.
Eh bien, mais on le laisse dans la rue ou
non.
Est-ce qu'il faut des centres éducatifs fermés, par exemple pour le cas de Combs-la-Ville ?
Non, mais très certainement pour les élèves qui font œuvre manifestement de violence, il faut des systèmes éducatifs qui soient des systèmes éducatifs spécialisés pour gérer les élèves qui sont violents.
Mais c'est ce qu'on appelait les maisons de correction dans les années 50 ?
Non, mais vous savez très bien qu'on n'en est pas, on n'a pas du tout, on n'en est pas du tout là.
Mais c'est mieux que vous le précisiez.
Mais non, mais on n'en est pas du tout là, en l'occurrence. D'ailleurs, ça existe déjà, hein, des centres éducatifs.
Oui, il y en a pour les enfants
qui sont difficiles, vous le savez. Bon, donc ce serait bien d'ailleurs qu'il y en ait un par département, parce qu'il n'y en a pas assez, en l'occurrence, pour pouvoir traiter ces problématiques. Mais il ne faut pas que l'enfant... Là, qu'est-ce qu'il a eu, lui ? Il a eu de la prison avec sursis. Pour un enfant, la prison avec sursis, c'est rien puisqu'il ne fait rien.
Il a eu 140 heures de tige.
Alors, je sais pas
travail d'intérêt général.
Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera amené à les faire parce que tout ça est surchargé et qu'en réalité, ça se perd dans les méandres administratifs. Et un rappel à...
Il a un stage de citoyenneté.
Un stage de citoyenneté.
Non, mais il a une obligation de soins en raison du cannabis.
Ah,
de sa consommation de cannabis.
Des problèmes aussi de drogue. Mais
c'est pas dissuasif, donc, tout ça.
Non, je pense que ça n'est pas dissuasif. Et ça crée, si vous voulez, chez les mineurs, un sentiment d'impunité. Ils font une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois. Il ne leur arrive en réalité véritablement rien. Et arrivés à 18 ans, on leur dit, vous partez en prison. Même eux ne comprennent pas en réalité qu'il n'y ait pas une gradation. Donc je crois qu'il faut que des peines, même des peines très courtes, quand les faits sont graves, même des peines courtes, mais qui soient réellement exécutées, parce que l'absence d'exécution a des conséquences qui sont très lourdes sur leur capacité à appréhender la discipline qui est nécessaire à la vie en société.
Une question SMS qui est la suivante. Êtes-vous favorable à la généralisation de l'armement des polices municipales ?
Oui. Je suis favorable avec une formation, bien entendu. Moi, je suis pour une école, pour créer une école de la police municipale, parce que je pense qu'une police municipale non armée est plus une gêne pour la police nationale, en réalité, qu'une aide. Voilà. Et souvent, la première chose, quand il y a vraiment une difficulté dans une ville, une rixe, c'est que la police nationale appelle la police municipale en disant « éloignez-vous parce que vous n'êtes pas armé ». Donc, du coup, compte tenu de l'aggravation très importante de l'insécurité dans notre pays, je pense qu'il faut armer la police municipale.
André nous appelle de Strasbourg et il va vous poser directement sa question. Bonjour André, bienvenue sur l'antenne d'RTL.
Bonjour Madame le député.
Bonjour André.
Je vous appelle parce que je constate que vous avez un point commun avec Monsieur le Président de la République. Vous n'avez quasiment pas réagi sur le rapport Sauvé, alors que ce sont des monstruosités qui y sont dénoncées. Est-ce pour préserver votre électorat catholique ?
Il
aime d'ailleurs pour le Président.
Excusez-moi d'aller à l'encontre de votre affirmation, car j'ai réagi dimanche dans une émission sur une chaîne de télévision en indiquant qu'il m'apparaissait que la justice, qui est quand même ce sur quoi nous avons un pouvoir, car moi je n'ai pas de pouvoir sur l'organisation de l'Église, mais je pense que nous avons un pouvoir sur la justice. Alors je pense que la justice française est aussi à blâmer dans ce domaine. Et j'ai donné l'exemple de Mgr Gaillot, qui a fait venir un prêtre pédophile du Canada, qui avait déjà été condamné au Canada pour de multiples agressions sexuelles, et l'État français a laissé venir, a donné un visa à ce monsieur pour venir. On l'a laissé être au contact d'enfants. Il a évidemment réitéré ses agressions sexuelles, et je trouve que tant l'État que la justice doit aussi assumer sa part de responsabilité dans cette forme d'aveuglement qui a entraîné ces victimes. Les agressions contre les enfants, c'est terrifiant. Et d'ailleurs, je serai amenée, dans le cadre de ma campagne présidentielle, à faire des propositions sur la protection de l'enfance, car j'ai le sentiment que c'est un sujet qui est souvent totalement laissé de côté dans une présidentielle. Or, la protection de l'enfance, aujourd'hui, dans notre pays, n'est pas au niveau où elle devrait être dans un grand pays civilisé.
Pardonnez-moi, mais je n'ai pas compris votre réponse en ce qui concerne la responsabilité de l'Église. Vous nous dites qu'elle doit aujourd'hui rendre des comptes en justice ?
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que celui qui est coupable... Non, mais celui qui est coupable... Pour peu qu'il soit encore vivant, que ce soit dans les liens de la prescription.
Disons les choses simplement, un prêtre pédophile.
Si vous voyez, ce rapport Sauvé, il remonte aux années 70.
Oui.
C'est sur un temps qui est extrêmement
très long.
Donc je pense qu'il faut être d'une très grande fermeté, et je pense qu'il faut condamner plus lourdement encore, si c'est possible, les prêtres pédophiles que les autres. Parce que les prêtres, ils ont sur les enfants, évidemment, une autorité morale qui les rend plus coupables que les autres de ce type d'action. Mais je pense que tous les Français partagent mon avis.
Et la dernière question de cette émission sera posée par Christophe, qui est routier, qui nous appelle les Pyrénées-Orientales. Bonjour Christophe, on vous écoute.
Oui, bonjour Yves Calvi, bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Marine Le Pen, je me posais la question, est-ce que vous pensez que la retraite à 60 ans est quelque chose de vraiment réalisable ?
Oui, parfaitement. Je pense que c'est parfaitement réalisable. Je rappelle que c'est 60 ans que l'on pourra prendre sa retraite à 60 ans, si et seulement si nous avons 40 euros d'annuité pleine. Donc l'idée, vous avez bien compris...
40 annuités de cotisation.
Mais bien sûr, 40 annuités de cotisation. Ça veut dire que ceux des enfants qui rentrent à 25 ans dans la vie active parce qu'ils ont fait des études partiront à 65 ans, et ceux qui, comme les routiers ou comme les ouvriers dans le BTP, ont parfois commencé à travailler à 18 ans ou à 20 ans, pourront prendre la retraite à 60 ans. Je trouve que c'est justice de faire cette proposition et de mettre en œuvre cette réforme. Ce qui est profondément injuste, c'est cette espèce de course à l'allongement de la durée du travail. On entend 63, 64, voire 67 ans. En réalité, c'est la disparition presque pure et simple de la retraite. Or, je rappelle qu'il y a des gens qui cotisent pour payer la retraite des autres. Hein.
Merci Marine Le Pen d'avoir été la première invitée de nos petits déjeuners de campagne qui vont donc se poursuivre sur l'antenne d'RTL.
Merci à vous.
D'ici l'élection présidentielle. Bonne journée à vous. Notre météo à 7 jours avec vous, Louis Baudin.
Oui, on l'a dit aujourd'hui, hein, temps sec et ensoleillé dans quasiment toutes les régions. Quelques nuages en l'extrême nord cet après-midi. Moins de vent près de la Méditerranée. Alors côté température, on avance dans l'automne. Donc ce matin, on a retrouvé des gelées assez fréquentes. Cet après-midi, nous serons entre 14 et 18 degrés dans le nord, 18 à 21 dans le sud. Demain, attention, on va avoir temporairement une dégradation plus sérieuse dans la moitié nord avec un ciel plus nuageux, voire quelques petites bruines dans l'extrême nord-est. Dans le sud, le soleil résistera, mais avec parfois un voile nuageux un petit peu plus épais, un peu de vent près de la Méditerranée. Les températures un peu moins fraîches le matin sous la couverture nuageuse, mais l'après-midi, ça ne bougera pas. Et puis pour ce week-end, eh ben, c'est le retour du soleil. Hein, ah. C'est ça. Fini là, ces nuages bas dans le nord. On retrouvera un temps sec et ensoleillé, quelques brumes le matin et ensuite, donc, du soleil pour tout le monde au nord comme au sud. Les températures, elles bougeront peu. On sera entre 15 et 17, 18 degrés dans la moitié nord à peu près, et parfois 18 à 21 ou 22 dans le sud. Et puis en début de semaine, mais c'est après le week-end, la pluie reviendra. Elle reviendra par le nord-ouest. Elle devrait balayer toute la moitié nord entre lundi et mardi. Le sud restera épargné et les températures vont nettement remonter en début de semaine prochaine puisqu'on devrait de nouveau frôler les 20 degrés dans la moitié nord et peut-être un peu plus de 25 degrés dans le sud. Donc retour des nuages et de la pluie, mais de nouveau
puis ensuite du douceur. Et c'est pour ça que vous venez nous dire on avance dans l'automne.
C'est ça.
Où ces temps successifs se succèdent. La vie est belle. Quatre saisons. Merci beaucoup Louis Baudin. Dans un instant, on va retrouver notre camarade Laurent Gérard avec toute son équipe et ensuite Cyril Lignac vous donnera une excellente recette de gâteau au chocolat pour Halloween. Ça vous va ? Ça vous va.
Dans RTL Matin, dès 9h, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. La saga cinéma du petit héros de bande dessinée inventée par Sampé et Goscinny continue mercredi prochain au cinéma. Le trésor du petit Nicolas plaira à la fois aux enfants et aux grands car il nous parle d'un thème essentiel, l'importance des amitiés d'enfance. Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve jouent les parents du petit Nicolas et ils sont nos invités en direct ce matin à 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin, 7h, 9h30.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Vous le savez, c'est Marine Le Pen qui a lancé ce matin sur RTL notre nouveau rendez-vous RTL présidentiel, le petit déjeuner de campagne.
Bonjour madame.
Ah, je vois que vous êtes restée avec nous dans ce studio où on vous a largement interrogé sur la candidature d'Éric Zemmour qui, je le rappelle, vous dépasse maintenant dans certains sondages.
C'est l'histoire d'un mec madame, vous la connaissez?
Oui.
Non, parce que des fois il y a des mecs, ils la connaissent, alors après on a l'air con madame.
Enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive, Madame Le Pen ?
Ah ah ! Je vous ai bien eu, je fais du Coluche, madame.
Oui, du Coluche, et pourquoi ça ?
Parce que Coluche, 6 mois avant la présidentielle de 80, il était à 18% dans les sondages, madame.
Ce qui n'est pas votre cas, puisque selon une enquête récente, vous seriez devancé par Éric Zemmour au premier tour.
Je vous demande de vous arrêter, madame.
Ah, là, vous nous faites du Balladur, si je ne m'abuse.
Oui, madame Édouard Balladur, qui était à 29% dans les sondages en 95, madame.
Bon, d'accord, j'ai compris. Vous voulez habilement nous faire comprendre que les bons sondages d'Éric Zemmour ne préjugent en rien de l'élection de mai prochain, c'est ça ?
Vous voulez que je vous dise pourquoi que je vous dis ça ?
Oui.
Ben, je vais vous le dire, madame.
Ah, là, c'est Nicolas Sarkozy, qui était donné grand favori de la primaire de la droite en 2017 et qui a été éliminé dès le premier tour.
Au profit de François Fillon, madame.
Lui aussi, grand favori des sondages, qui a explosé en vol.
Salut les Gouines, repos, madame.
Comme Alain Juppé, qui ne pouvait pas perdre. Votre démonstration est implacable.
N'est-ce pas, madame ? C'est pourquoi je conseille à Monsieur Zemmour de s'acheter un vélo et une maison à l'île de Ré, madame, comme Lionel Jospin en 2002.
Depuis qu'il a remporté la primaire d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot doit consolider tous les courants de son parti. Nicolas Hulot, notre expert en écologie, est parti voir comment il s'en sort.
Je survole actuellement la zone protégée d'Europe Écologie Les Verts. Une guerre est en train de se dérouler sous mes yeux.
Une guerre ?
Oui, Sandrine Rousseau de la tribu des écolos féministos débilus essaye de déconstruire la masculinité de Yannick Jadot avec un brocoli. Tandis que Yannick Jadot barre les coups avec une batterie de vélo électrique.
C'est mal parti pour l'unité alors.
En effet. D'autant qu'Éric Piolle de la tribu des écolos progressivos indinus s'est joint à Sandrine Rousseau et attaque maintenant Yannick Jadot avec un canon à quinoa. Mais ouf, aïe,
ça va Nicolas, que se passe-t-il?
L'hélice de mon ULM vient d'être sectionnée par une pale d'éolienne. Je suis en train de perdre de l'altitude.
Oulala, ça va Nicolas?
Ouf, mon ULM vient de s'écraser sur les toilettes sèches d'Europe Écologie Les Verts. Heureusement, personne n'était à l'intérieur. Ceci dit, comme on vient de le constater, on n'a pas besoin d'aller aux toilettes pour produire de la merde.
On retrouve maintenant Jean-Michel Apathy qui anime chaque jour son émission de débat Les Experts Apathy sur LCI.
Bienvenue dans les Experts Apathy, l'émission de libre expression où s'expriment les opinions les plus diverses et variées. Nous recevons aujourd'hui Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle, l'acteur de gauche Pierre Arditi et le journaliste à la retraite Guillaume Durand. Madame Hidalgo, vous êtes très bas dans les sondages, quelle est votre réaction ?
Mes mauvais résultats dans les sondages sont la preuve que les Français sont sexistes.
Ouais, alors effectivement, j'ai envie de vous demander, mais alors comment dirais-je ? Est-ce que l'argument ne serait pas un peu, comment dirais-je, facile ?
C'est celui qui dit qui y est.
Bon, enfin, c'est consternant, mais c'est absolument consternant. Rendez-moi la gauche que j'ai connue. Pierre Arditi, vous soutenez les candidats socialistes à chaque présidentielle depuis l'élection de François Mitterrand en 1980. Faut-il déduire de votre réaction désapprobatrice que vous ne le ferez pas cette année ?
Ah ben non, il va pas me soutenir, hein, puisque je suis une femme.
Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais ça n'a rien à voir, c'est absolument pitoyable. Mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Alors effectivement, monsieur Arditi, j'ai envie de vous demander, finalement, en tant que représentant de la gauche, comment dirais-je, caviar, est-ce que selon vous, Anne Hidalgo représente effectivement, comment dirais-je, la gauche, comment dirais-je, quinoa ? Mais, hein ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Cette émission est lamentable, c'est complètement lamentable. L'émission se termine, merci à tous, je recevrai demain Xavier Bertrand et nous essaierons dans les experts LCI de répondre à la question « Peut-on faire rêver les Français quand on ressemble au directeur de Groupama de Montluçon ?»
Non mais c'est pas possible, pourquoi je suis venu ? Non mais j'aurais mieux fait de rester chez moi, mais c'est pitoyable, absolument pitoyable.
Depuis la semaine dernière, le spationaute Thomas Pesquet est le premier Français à commander la Station Spatiale Internationale. Bonjour Thomas Pesquet.
Bonjour. Bonjour les terriens et surtout bonjour à tous et à tous ceux qui me suivent sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, TikTok, Tinder, Grindr, adopteunmec.com.
Oui, bon, Thomas Pesquet, on sait que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, mais vous voulez sans doute avoir moins de temps libre maintenant puisque vous êtes commandant de bord.
Au contraire, le précédent commandant, le japonais Sushi Sashami, n'en foutait pas une. Il regardait des estampes toute la journée, en chaussettes, pendant qu'on nettoyait les hublots.
Alors, on a tous vu l'émouvante cérémonie de passation où le commandant japonais vous a symboliquement remis les clés de la station, en effet.
Non, en fait, il m'a remis les clés du mini-bar de la station. Maintenant, je vais arrêter le jus d'orange en poudre et le café en boule, je vais me mettre au Beaujolais.
Voilà. Que se passe-t-il là-haut ? On entend des drôles de bruits.
Ah, c'est l'américaine Apollo 13 qui tire au pistolet laser sur Yuri Margarine, mon homologue russe, parce qu'il lui a mis une main au cul pendant sa gym.
Ah oui, il s'en passe des choses dans la station, hein. On a vu aussi que vous cultivez des piments rouges.
Ouais, c'est une idée de moi. J'en ai mis dans les rations de tout le monde, mais j'ai été obligé d'appeler Houston parce qu'on a eu un petit problème.
Ah ouais, quel problème ?
Bah, tout l'équipage a eu la courante et mon homologue italien Aldo Fanculo, qui était en train de serrer des boulons à l'extérieur, a dû rentrer d'urgence à la station parce que ça commençait
bon,
à se remplir.
Oui, bon bah merci Thomas Pesquet, hein. Soyez prudent.
Aucun risque, hein, maintenant que je suis commandant, je vais pouvoir jouer du saxo toute la journée et poster encore plus de photos. Mm-hmm. Vous savez, vu d'ici, tout est minuscule, hein. Oui. Même le Grand Canyon est plus petit que ma bite.
Hop.
Alors vous retrouvez toute l'équipe et Laurent, bien entendu, en podcast sur le site rtl.fr et dans un instant, la recette de gâteau au chocolat de M. Cyril Lignac.
Yves
Calvi.
Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors attention, aujourd'hui une question très technique.
Ah oui.
C'est une demande de Lily des Yvelines. Je veux faire un gâteau au chocolat coloré en orange pour Halloween. Problème, je suis intolérante à une molécule commune à tous les fruits et légumes. Je ne peux en manger sous aucune forme. Seule exception, le vin, le chocolat et le café.
C'est pas mal.
C'est formidable déjà, car la transformation supprime cette molécule. Les fleurs et les épices, je peux. Deux convives sont diabétiques, mais c'est pas vrai, c'est un défi qu'elle vous lance. Donc évitez le sucre et le dernier est contre la chimie, donc le colorant doit être naturel et fait maison. Bah dites donc,
j'ai bien
j'aimerais
fait
pas
de
l'avoir
venir,
sur le dos, Lily.
En ce jeudi matin, là.
Oui, allez-y.
Alors, on y va. Dans une poêle, on va faire déjà un premier gâteau. Donc, on va faire fondre 100 g de beurre que l'on va cuire noisette. On va le caraméliser. Mmh. Dans un saladier, je mets 60 g de farine, 90 g de poudre d'amande. Mmh. J'enlève le sucre, je mets 150 g de sucre de noix de coco,
oui.
Une pincée de sel et la pulpe d'une gousse de vanille.
Super.
À côté, je monte des blancs en neige, je les mélange, j'ajoute le beurre noisette, je mélange mon premier mélange, je mets dans un petit moule et là, je cuis 40 minutes à 185 degrés. Je vais avoir un bon petit biscuit bien moelleux.
Sympathique. Alors, on démoule ?
On démoule.
À chaud ?
À chaud et on laisse refroidir.
Hop.
Ensuite, on va préparer une mousse au chocolat noir. Comme elle a le droit au chocolat noir,
oui.
Mais avec du sucre à la noix de coco, toujours.
Oui.
C'est une bonne alternative.
D'ailleurs, et ça remplace si le sucre blanc.
Exactement, si on veut changer un petit peu. On prépare la mousse au chocolat noir avec du sucre et on la laisse prendre tranquillement et on va la déposer au dernier moment sur le financier.
Oui.
Donc, le mousse au chocolat, 300 g de chocolat concassé dans un bain-marie. J'ajoute ensuite la crème et le lait. Je vais faire une ganache.
Crème et lait.
Crème et lait. Je vais faire une petite ganache, je mélange doucement. À côté, je monte des blancs en neige avec 80 g de mon sucre de coco.
Mm-hmm.
Et j'ai une mousse au chocolat, mm-hmm. hyper légère. Et jusque-là, je respecte mon défi.
Eh oui.
Et ensuite, je vais déposer sur mon financier, qui a bien refroidi, avec une poche à douille. Je vais décorer joliment le gâteau, sans colorant, sans sucre. Mais avec beaucoup d'amour.
Bah, ça, c'est formidable. Lily est au comble du bonheur grâce à vous. Merci pour votre aide précieuse, cher Cyril. On peut vous poser toutes les questions culinaires que nous avons en tête sur le site rtl.fr/participer. À demain.
À demain.
Rire ensemble sur RTL.